bizarre, fantasque, effrayant, philosophique ou malicieux,
tout simplement universel,
le conte,
la nouvelle ou la fable nous font des clins d'œil.
Ne boudons pas notre plaisir.
Installons-nous confortablement et écoutons.
Ciel, si ceci, ciel, si ceci, ciel.
Qu'on goûte.
Une émission proposée par Jacqueline
sur Radio Bartas.
Le gros capitaliste. Dans un village indien de l'état de Oaxaca, apparut un beau jour un Américain soucieux d'étudier le pays et les gens. En fouinant à droite et à gauche, il se retrouva devant la hutte d'un petit paysan indien qui profitait du temps libre que lui laissait la culture de son champ de maïs pour augmenter son modeste revenu en tressant deux petits paniers. Ceux-ci étaient faits de fibres de sisal que l'Indien colorait de teinture qui lui fournissait diverses plantes et écorces dont il les extrayait. Cet homme avait un tel talent pour tisser les brins de fibres multicolores qu'une fois achevé, le petit panier paraissait constellé de personnages, de motifs, de fleurs et d'animaux. Même sans être versé dans cet art, on pourrait voir que ces paniers n'étaient pas peints, mais que leurs motifs étaient savamment entrelacés dans leur texture même. Il suffisait de regarder à l'intérieur pour constater que ces décorations se retrouvaient à la même place sur leur surface externe. On pouvait s'en servir comme corbeille à couture ou comme objet d'ornement. Chaque fois que l'Indien avait confectionné une vingtaine de ses petits chefs-d'œuvre et qu'il pouvait quitter son champ pour la journée, il se levait à 2 heures du matin pour se rendre à la ville où il allait les vendre au marché. La taxe pour avoir une place sur le marché lui coûtait 10 centavos. Quoiqu'il passât plusieurs jours à travailler sur chacun de ses petits paniers, il n'en réclamait que 50 centavos. Mais quand un acheteur lui reprochait d'être beaucoup trop cher et se mettait à marchander, l'Indien descendait à 35, à 30 et jusqu'à 25 centavos, sans savoir que c'est là le lot de la plupart des artistes. Il arrivait assez souvent que l'Indien ne puisse pas vendre tous les petits paniers qu'il avait apportés au marché, car beaucoup de Mexicains se croient obligés de souligner le fait qu'ils sont civilisés et préfèrent de loin acheter un objet manufacturé qu'on produit à 20 000 exemplaires par jour, mais qui porte l'estampille de Paris, de Vienne ou d'un atelier d'art de Dresde, au lieu de savoir apprécier dans toute son originalité le travail d'un Indien de leur propre pays, qui n'en faisait pas deux qui fussent identiques. Quand donc l'Indien n'avait pas réussi à vendre tous ses paniers, il allait les proposer de porte en porte, où l'accueil qu'on lui réservait était empreint, selon les cas, de brusquerie, d'indifférence, de mépris ou d'ennui, traitement habituel envers les colporteurs, les représentants en livre ou en cadre. L'Indien le supportait, comme tous les artistes, seuls à être conscients de la valeur de leur travail, supportent pareil traitement. Il ne s'en formalisait pas et le prenait sans tristesse, sans aigreur et sans irritation. Lors de cette tournée de porte en porte, on ne lui offrait souvent que 20, voire même 15 ou 10 centavos du panier. Et lorsqu'il lui arrivait d'en céder pour cette misère, c'est fréquemment que sous ses yeux, la femme prenait le petit panier, y lançait à peine un coup d'œil et le jetait négligemment sur la première table, avec l'air de dire « C'est bien de l'argent jeté par les fenêtres, mais bon, je vais faire gagner quelques sous au pauvre Indien qui fait une si longue route. » « D'où es-tu ? Ah, de Tlacopec. Écoute, ne pourrais-tu pas m'apporter 2 ou 3 dindes ? Mais il faudra qu'elles soient bien grasses et très bon marché, sinon je ne les prendrai pas. » Mais les Américains ne sont, à propos des petites merveilles de ce genre, pas aussi difficiles que les Mexicains, qui, à quelques exceptions près, ne savent pas apprécier ce qu'ils ont sous la main dans leur pays. Même si l'Américain moyen est inapte à évaluer l'incomparable beauté de tels ouvrages, il ne manque pas de s'apercevoir immédiatement qu'il s'agit là d'art populaire et il est d'autant plus vite porté à l'identifier et l'apprécier qu'il n'existe pas chez eux. Accroupi sur le sol devant sa hutte, l'Indien tressait ses petits paniers. L'Américain lui demanda « Combien coûte un panier, l'ami ?»« 50 centavos, senor, » répondit l'Indien. « Bon, j'en achète un, je connais quelqu'un à qui ça fera plaisir. » Il s'était attendu à ce que le panier coûtât 2 pesos. Lorsqu'il eut pleinement pris conscience de cela, il pensa aussitôt aux affaires. Il questionna l'Indien. Si maintenant je vous achetais 10 de ces petits paniers, à combien me les feriez-vous pièce ? L'autre réfléchit un moment et dit : La pièce vous coûterait alors 45 centavos. All right, muy bien. Et si j'en achetais 100, combien la pièce ? De nouveau, l'Indien prit un moment pour faire ses calculs. La pièce vous coûterait alors 40 centavos. L'Américain acheta 14 paniers, tout ce que l'Indien avait en stock. Lorsqu'il fut convaincu d'avoir vu le Mexique et de connaître dans les moindres détails tout ce qui était digne d'intérêt à propos du pays et des Mexicains, il regagna New York. Puis, retourné à ses affaires, il repensa aux petits paniers. Il se rendit chez un grand négociant en confiserie en lui disant « Je suis en mesure de vous fournir un petit panier de cette sorte. Regardez quel emballage cadeau des plus originaux cela ferait pour présenter vos chocolats de luxe. » Le confiseur examina le panier avec la plus grande attention. Il appela son associé, puis finalement son gérant. Après concertation, le confiseur déclara « Je vous dirai demain le prix que je suis disposé à en donner, à moins que vous ne m'indiquiez le vôtre. Je vous ai déjà dit que je ne me réglerai que sur votre offre si vous êtes preneur. Je vendrai ces paniers en exclusivité à la maison qui m'en offrira le plus. » Le lendemain, l'expert en objets mexicains revint voir le confiseur qui lui confia. Je pourrais tirer 4, peut-être même 5 dollars d'un panier de bonbons au chocolat des plus fins. C'est l'emballage le plus joli et le plus original qu'on puisse présenter sur le marché. Je vous en offre 2,5 dollars pièce, fret et douane pour la marchandise rendue au port de New York à ma charge, expédition à la vôtre. Le voyageur, de retour du Mexique, fit ses calculs. L'Indien lui avait fait une offre de vente à 40 centavos pièce s'il lui en prenait 100. 40 centavos, cela faisait 20 cents. Il revendrait le panier à 2,5 dollars. Il y gagnerait 2,30 dollars par pièce, soit à peu près 1200% de profit. « Je pense que je peux le faire à ce prix-là, » dit-il. Sur quoi le confiseur répondit. « Mais à une condition. » « Il faut que vous nous livriez au moins 10 000 de ces petits paniers. À moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle, car la réclame que j'aurai à faire pour cette nouveauté ne se justifierait plus. Et sans réclame, je ne saurais en tirer ce prix-là. » « D'accord, » opina l'expert en objets mexicains. Il venait de gagner 24 000 dollars revenus dont il n'avait à soustraire que le coût du voyage et du transport jusqu'à la première gare de chemin de fer. Il partit aussitôt pour le Mexique et alla trouver son Indien. « Je vous amène une fameuse affaire, dit-il. Pensez-vous pouvoir me fabriquer 10 000 de ces petits paniers ?»« Bien sûr, autant que vous voudrez. Il me faudra pas mal de temps, évidemment. Il faut consacrer beaucoup d'attention au traitement des fibres. Ça prend du temps, mais je peux faire autant de paniers que vous en désirerez. » L'Américain s'était attendu à voir l'Indien devenir fou de joie en apprenant la grosse affaire qu'il lui proposait, à peu près comme un marchand de voitures américain devant une commande de 50 Dodge Brothers d'un coup. Mais l'Indien ne s'émut pas. Il n'interrompit même pas son travail. Il continua de tresser tranquillement le panier qu'il avait entre les mains. On pouvait peut-être gagner 500 dollars de plus, ce qui couvrirait les frais de voyage, pensa l'Américain. Car pour un si gros contrat, le prix du petit panier à l'unité pourrait sûrement faire l'objet d'un rabais supplémentaire. Vous m'avez dit que vous pourriez me vendre le panier 40 centavos par pièce, si je vous en commande 100, avança-t-il. Oui. « C'est bien ce que j'ai dit, confirma l'Indien. Ce que j'ai dit reste valable. »« Bien, poursuivit l'Américain, mais vous ne m'avez pas dit à combien vous me feriez le panier si je vous en commandais 1 000. »« Vous ne me l'avez pas demandé, seigneur. »« C'est vrai, mais maintenant j'aimerais savoir à combien vous me le feriez pièce si je vous en commandais 1 000 et... » « Si je vous en commandais 10 000. » L'Indien interrompit alors son travail pour tâcher de calculer. Au bout d'un moment, il dit « C'est trop, je ne peux pas calculer ça aussi vite. Il faut d'abord que je réfléchisse à tête reposée. Je vais dormir là-dessus et demain je vous dirai. » L'Américain revint voir l'Indien le lendemain pour prendre connaissance de sa proposition. « Avez-vous calculé le prix pour 1 000 et pour 10 000 paniers ?»« Oui, seigneur. Mais cela m'a coûté beaucoup de peine et de soucis pour être sûr, en calculant le plus justement possible, de ne pas vous tromper. Si j'avais à faire 1 000 pièces, le prix serait de 2 pesos pièce. » Et si j'avais à en faire 10 000, la pièce reviendrait à 4 pesos. L'Américain était persuadé d'avoir mal entendu. Il pensa que sa médiocre connaissance de l'espagnol lui jouait un mauvais tour. Pour conjurer l'erreur, il demanda « 2 pesos pièce pour 1 000 et 4 pesos pour 10 000. Vous m'avez pourtant bien dit que si j'en achetais 100, ce serait 40 centavos pièce. » « C'est la vérité. Je vous en vendrai 100 à 40 centavos pièce. » L'Indien parlait calmement car il avait pesé tous les aspects du problème et il n'y avait pas de raison de se disputer. « Seigneur, vous allez vous-même comprendre que 1 000 demande beaucoup plus de travail que 100 et que 10 000 encore plus de travail que 1 000. » Voilà à coup sûr qui est clair pour tout homme raisonnable. Pour 1 000 paniers, j'aurai besoin de beaucoup plus de cisales. Il me faudra chercher beaucoup plus longtemps pour trouver les teintures et les faire en décoction. Il ne s'agit pas de fibres quelconques. Ensuite, on doit les faire sécher avec soin. Et puis, si je dois faire tant de paniers, qu'adviendra-t-il de mon champ de maïs et de mes bêtes ? De plus, pour en tresser autant, il me faudra demander l'aide de mes fils, de mes frères, de mes neveux, de mes oncles. Que deviendront alors leurs champs et leurs bêtes ? Tout deviendra très cher. Je vous assure que j'ai pensé à vous être le plus agréable et le meilleur marché possible. Mais c'est là mon dernier mot, señor, verdad, última palabra. 2 pesos pièces, les 1000, et 4 pesos pièces, les 10 000. L'Américain discuta et marchanda avec l'Indien la moitié du jour, essayant de lui faire comprendre qu'il s'agissait d'une erreur de calcul. Et il se servit d'un épais bloc-notes tout neuf qu'il couvrit de chiffres, feuille après feuille, pour prouver à l'Indien combien il serait en mesure d'accroître sa fortune en faisant un prix de 40 centavos la pièce, et comment on comptabilise les frais, le prix de revient des matériaux et les salaires. L'Indien observait les chiffres avec admiration. Il lui semblait prodigieux que l'on pût aussi vite les aligner, les additionner, les diviser et les multiplier. Mais au fond, cela le n'impressionnait guère, car il ne savait ni lire, ni chiffres, ni lettres. Et le seul bénéfice qu'il retira de la subtile conférence à haute signification économique de l'Américain fut d'apprendre qu'un homme est capable de parler pendant des heures pour ne rien dire. Lorsque l'Américain crut avoir convaincu l'Indien de son erreur de calcul, il lui tapa sur l'épaule et demanda « Alors, mon cher ami, quel prix me faites-vous ?»« 2 pesos pièces pour 1000 et 4 pesos pièces pour 10 000. » L'Indien s'accroupit de nouveau avant d'ajouter « Il faut maintenant que je me remette au travail, excusez-moi, seigneur. » L'Américain s'en retourna à New York furieux et tout ce qu'il peut dire au négociant en chocolat pour se libérer de son contrat fut « On ne peut pas traiter d'affaires avec les Mexicains, il n'a rien à tirer de ces gens-là. » Et c'est ainsi qu'il fut épargné à New York d'être submergé de milliers de ces petits chefs-d'œuvre si charmants. Et c'est ainsi qu'il fut possible d'éviter que ces merveilleux petits paniers où un paysan avait, avec une habileté sans pareille, tissé le chant des oiseaux qui l'entouraient, les somptueuses couleurs des fleurs qu'il contemplait chaque jour dans la brousse, ainsi que les chansons inédites qui résonnaient dans son âme, finissent déchirés et chiffonnés dans les poubelles de Park Avenue, après avoir perdu toute valeur une fois croqués les chocolats. Le gros capitaliste de Bruno Traven.
Vous venez d'écouter Compte-Gouttes sur Radio Bartas 107 FM.